Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il existe dans la Bible un livre un peu à part, le Cantique des Cantiques, un livre ou un long poème d'amour considéré comme sulfureux par certains, tant les images qui y sont utilisées sont osées, érotiques même. Un livre mystérieux, parfois mal compris, pourtant placé au milieu des Écritures, dont on imagine donc qu'il a quelque chose de très profond à nous dire. Pour nous prendre par la main et partir à la découverte de ce texte, je reçois ce matin l'un des grands spécialistes du sujet, un frère Carme de Toulouse. Frère Jean-Emmanuel de Héna, bonjour.
Bonjour.
Je vais y arriver, c'est le démarrage de la semaine. Donc vous êtes directeur de l'Institut Jean de la Croix, enseignant à l'Institut catholique de Toulouse et aussi à l'Institut d'études religieuses et pastorales, l'IERP, à Toulouse. Alors vous êtes donc un des grands spécialistes, et non pas le grand spécialiste, donc du Cantique des Cantiques. Alors peut-être avant toute chose et avant de parler longuement de ce Cantique des Cantiques, peut-être peut-on commencer par en lire un paragraphe. Je vous le laisse puisque vous avez la voix adaptée à ce type de lecture, nous en lire peut-être un extrait.
Très volontiers. Qu'il me couvre des baisers de sa bouche, oui, tes amours sont meilleurs que le vin. L'odeur de tes parfums est suave, parfum qui s'épanche et ton nom. Aussi les jeunes filles t'aiment-elles. Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a introduite en ses appartements, tu seras notre fête et notre joie. Nous redirons tes amours meilleurs que le vin. On a bien raison de t'aimer.
Alors, vous en lirez d'autres passages dans cette émission. C'est vrai que la première chose, quand on tombe sur le Cantique des Cantiques, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que ça fait dans la Bible ? Alors, peut-être que c'est une réaction justement très janséniste, une réaction pas juste, mais je pense que ça surprend y compris le grand public. Déjà, qu'est-ce que ça fait là ? Quelle est l'origine de ce texte ? Quand est-ce qu'il a été mis, on va dire, dans les Écritures ?
Alors, je pense que la surprise vient du fait aussi qu'on ne connaît pas la Bible. Hein. On s'imagine que la Bible, c'est rempli de récits édifiants, gentils, moralisateurs. Bon, évidemment, la Bible, c'est absolument pas ça. Il y a toutes sortes d'histoires, de toutes sortes, avec des difficultés, des joies, des peines, des trahisons, de tout. Enfin, comme la vie elle-même. Il y a justement de tout, c'est-à-dire aussi des récits épiques et aussi de la poésie. Et là, particulièrement, donc, une poésie amoureuse, puis d'un amour fou, d'un amour complètement passionné. Donc, évidemment, quand on ne connaît pas la Bible, on est surpris qu'il y ait ça dans la Bible. Mais c'est que la Bible, c'est une bibliothèque, en fait. Et dans cette bibliothèque, il y a de tout, et cette poésie. Les origines, oh là là, vous commencez mal.
Même si on prépare l'émission, oui, c'est ça, on ne connaissait pas l'origine de ce texte.
Oui, c'est-à-dire comme beaucoup de textes bibliques, ils sont très difficilement datables pour une raison très simple, c'est qu'ils se sont transmis. Ils se sont transmis au cours des siècles et que chaque génération a relu, a retravaillé, parce que pour eux, c'est des textes vivants. Et puis, c'est nous qui avons la manie des origines, qui avons la manie de datation, la manie de... Pour les anciens, c'était pas le problème. Le problème, c'est que le texte soit transmis. Alors évidemment, le début dit « Cantique des Cantiques de Salomon ». Alors évidemment, la première idée qu'on se fait, c'est peut-être que ça a été écrit par le roi Salomon. Donc roi Salomon, je vous rappelle, c'est 1000 ans avant le Christ, donc il y a 3000 ans. Bon, sauf que des aspects littéraires invitent à douter de la chose. Je m'explique, très concrètement, il y a des mots perses. Donc la Perse, c'était sous domination perse, c'était 5e siècle, enfin au retour de l'exil de Babylone, enfin... Tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais pour dire qu'il y a des mots, il peut semblerait même peut-être qu'il y a un mot grec. Donc, autrement dit, ça ne peut être que au plus haut, plutôt au 5e, 6e siècle, et encore probablement plus récent, peut-être même remanié après coup. Enfin, vous voyez, la question des origines est en fait assez difficile, puisque pour ma part, je suis assez convaincu qu'il y a eu plusieurs étapes, qu'il y a eu un premier Cantique des Cantiques plus court, et puis qu'ensuite... on a rajouté encore d'autres choses.
Alors j'ai entendu dire aussi que ça aurait pu être écrit par une femme, puisque de fait, en fait, ça dit d'abord, c'est surtout une femme qui parlerait,
oui.
Et qui parlerait de l'attente de son bien-aimé, qui tour à tour le trouve, le père, le trouve et le repère, qui le désire et qui s'unit à lui. Est-ce que ça, c'est une possibilité, que ça ait été écrit par une femme, ou est-ce que de fait, le plus probable, c'est que ça ait été écrit justement par le roi Salomon ?
Ah, alors là, on... plonge dans le conflit des interprétations sur le Cantique des Cantiques, qui date depuis toujours, enfin non, pas tout à fait depuis toujours, qui date surtout depuis l'époque moderne, quand on s'est posé des questions sur quelle est la signification de ce texte. De fait, il y a un exégète américain, évidemment, enfin ou en tout cas qui enseigne en Amérique, André Lacocque, qui a écrit un bouquin, un livre, Romance She Wrote. Alors excusez mon accent anglais awful, c'est-à-dire un roman elle a écrit. Donc, sa thèse, effectivement, c'est que ça a été écrit par une femme, voilà, puisque de fait, c'est vrai que ce qui surprend en lisant le Cantique des Cantiques, c'est que, d'abord, c'est un dialogue, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, donc ça, c'est très particulier. Il y a guère peut-être que les psaumes qui ressemblent un peu à ça. La plupart des fois, on a des récits qui racontent une histoire. Ici, c'est pas une histoire qui est racontée, c'est un dialogue, tout de suite, immédiatement, on parle, l'un parle à l'autre, et c'est la femme qui parle, et beaucoup. Alors, pas de misogynie, si je vous prie, je vous en prie, mais enfin, de fait, c'est quand même elle qui parle plus abondamment. Donc, on peut se poser la question, alors est-ce que ça serait pas une femme qui a écrit cela? Bon, donc, certains l'ont défendu. Mais en face, il y a des femmes, évidemment, qui ont répondu en disant « Oh là là, dans le Cantique des Cantiques !» La femme est beaucoup trop idéalisée. C'est forcément un homme qui a écrit ça, puisque c'est une femme trop idéale.
On y viendra.
Vous voyez comme quoi, des mêmes choses, on peut en tirer des conclusions diamétralement opposées.
Alors, je disais en introduction aussi qu'il a une place particulière, enfin, ce texte aurait une place, vous allez nous le dire, à l'intérieur des Écritures, puisque moi, je l'ai lu donc hier soir, en ouvrant ma Bible, en fait, je me suis rendu compte que c'était à peu près au milieu. Alors, bon, je sais pas, je me suis dit que ça avait peut-être un sens. Est-ce que c'est fortuit, ou est-ce qu'on peut y voir justement un sens, je sais pas, pas caché, un sens réel?
Alors, physiquement, c'est fortuit. Il se trouve qu'effectivement, dans nos Bibles modernes, si j'ouvre à peu près la moitié, je tombe sur le Cantique des Cantiques. Alors évidemment, moi j'y vois un petit clin d'œil. Je me dis, c'est assez génial que ce texte soit central, parce que je crois effectivement qu'il est la clé, qu'il est une clé des Écritures, parce que c'est la clé de l'amour et que ça parle de cet amour passionné. Alors on verra de quel amour il s'agit, mais je pense justement que c'est tous les amours qui sont réunis. Mais après, c'est fortuit, puisque l'ordre des textes est très différent dans la Bible hébraïque, écrit en hébreu, de la Bible qui a été traduite en grec, ce qu'on appelle la Septante, qui est devenue en fait la Bible des chrétiens. Donc la Bible que nous avons, nous, modernes et les chrétiens, est plutôt calquée sur l'ordre de la Bible grecque. Et donc du coup, on a mis un ordre différent de celui de la Bible hébraïque. Bon, trop compliqué d'expliquer tout l'ordre des choses. En tout cas, actuellement, dans nos Bibles modernes, ça se trouve, enfin, les Bibles catholiques, parce que là aussi, il y a une différence entre catholiques et protestants. On n'a pas le même ordre. Les protestants ont plutôt pris l'ordre de la Bible hébraïque souvent, et nous, on a plutôt pris l'ordre de la Bible grecque. Donc, actuellement, il se trouve dans les écrits de sagesse, hein, qui est l'une des parties.
Alors, rappelez-nous les livres de sagesse, que c'est? C'est ce qu'on appelle les livres sapientiaux, c'est ça?
Les livres sapientiaux, absolument, que l'on distingue. Donc, ben, vous avez au tout début le Pentateuque, puis vous avez les livres historiques, et puis vous avez de l'autre côté les prophètes. Donc c'est aucun de ces trois, c'est les écrits sapientiaux. Donc comme le mot le dit, c'est des écrits qui parlent de sagesse. Alors différents types de sagesse. Donc Coëlette semble plutôt discuter sur la vanité du monde, sur la vanité de la vie. On va aussi mettre sur les écrits de sagesse, alors que c'est pas tout à fait ça, les psaumes, hein, qui sont des chants de louange ou de souffrance. On va mettre aussi une réflexion qui est plutôt presque philosophique, qu'on appelle la sagesse de Salomon, qui a été écrite directement en grec. On va mettre aussi, il y a un autre livre qui s'appelle le livre des proverbes. Vous voyez, c'est un petit peu toute cette sagesse, à la fois populaire, à la fois d'instruction, d'enseignement. Donc on a mis tout ça sous ce vocable-là. Bon, évidemment, comme il y a les Grecs en face qui ont la philosophia, hein, la philosophie, donc l'amour de la sagesse, eh bien, d'une certaine façon, les Juifs ont voulu aussi dire, ben nous aussi, on a des écrits de sagesse, vous voyez, nous aussi, on réfléchit sur l'amour, on réfléchit sur la mort, on réfléchit sur la vieillesse, sur la fidélité, sur l'instruction, sur l'éducation, etc., etc.
Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot davantage avant qu'on parle aussi de tout ce que, comment dire, l'inspiration que ça a été pour de nombreux artistes, de la place que ça a chez les Juifs? Alors, de fait, évidemment, ça fait partie de la Bible hébraïque, comme vous dites, mais j'ai cru comprendre que c'était un texte qui était lu régulièrement, entre autres à Pâques, par les Juifs. Pourquoi il est lu à Pâques?
Alors, pourquoi il est lu à Pâques, c'est très simple. C'est parce que dans le chapitre 2, on nous parle du printemps. L'hiver est passé, le temps des guérefrains est revenu, or Pâques, comme vous le savez certainement, ça arrive toujours en printemps. Ça arrive toujours au moment où justement toute la nature renaît. Donc comme le texte lui-même parle du printemps, ben, ça semblait tout à fait naturel et logique d'utiliser ce texte, de relire ce texte qui est assez court, hein. Il y a 8 chapitres, c'est une poésie, hein, de le relire à Pâques. Mais il se trouve aussi que les séfarades, semble-t-il, si je ne m'abuse, lisent cela aussi à chaque Shabbat. Donc ça fait que certains juifs pieux connaissent par cœur le Cantique des Cantiques, hein. Il est même souvent chanté, puisque c'est pas seulement de la poésie, mais c'est un chant, hein, et un chant d'amour extrêmement beau. Donc de fait, c'est relu régulièrement. Il faut savoir quand même qu'au tout début, ils se sont posé la question de savoir si ça allait garder ce texte ou pas. Il y a eu une discussion entre les rabbins, plus exactement pas s'ils allaient le garder ou pas, mais de savoir est-ce qu'il est sacré ou est-ce qu'il n'est pas sacré, hein. Et dans leur langage, on appelle ça souiller les mains. Pourquoi souiller les mains? Ça semble étrange au début. Ça veut dire que, est-ce qu'il est saint? S'il est saint, il faut se laver les mains avant de toucher ce livre, ce rouleau, et puis une fois qu'on l'a déposé, il faut se relaver les mains pour repasser au monde profane. Donc ils se sont posé la question, ils ont discuté entre eux, et c'est un rabbin du IIe siècle, Rabbi Akiba, qui est assez connu par ailleurs, qui a dit, si toutes les écritures sont saintes, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Évidemment, Cantique des Cantiques, saint des saints. Hein, il a joué sur ça. Et à partir de ce moment-là, les Juifs ont accueilli, bien sûr, sans aucune discussion, le Cantique des Cantiques comme faisant partie des Écritures saintes.
Alors, dernière chose avant qu'on fasse une première pause musicale. Donc, le Cantique des Cantiques a été source d'inspiration, enfin, tout au long de toute l'histoire artistique, en tout cas occidentale. Je regardais comme ça en préparant l'émission. Entre autres, il y a un chorégraphe récemment, Abou Lagra, qui a mis en scène très récemment le Cantique des Cantiques. C'est dans un article du Monde de décembre dernier, de septembre dernier, à la Maison de la Danse à Lyon. On peut citer aussi le Cantique des Cantiques interprété par Alain Bachung et Chloé Mons, qui était sa dernière épouse, si je me trompe pas. Et puis d'autres grands peintres ou hommes de lettres, donc Chagall, Victor Hugo, Umberto Eco, etc., etc. Alors, on imagine, la réponse est dans la question, mais pouvez-vous peut-être le développer? Ça a été source d'inspiration et on va dire une source d'inspiration très grand public qui peut-être tout d'un coup arrive à se saisir des écritures peut-être plus facilement ou se sent rejoint par les écritures.
Alors, c'est surtout que comme le Cantique des Cantiques est rempli d'images, de métaphores très suggestives, très belles, qui invitent à tomber amoureux finalement, hein, et à découvrir ce qu'est l'amour, forcément, les artistes s'y retrouvent parce que ils y voient une source d'inspiration, hein, avec des choses assez étonnantes, surprenantes. Donc, c'est beaucoup plus facile de partir de là que sur les lois du Lévitique, vous voyez, c'est quand même plus difficile. Donc, les poèmes d'amour, ça aide à être inspiré. Et effectivement, ça n'arrête pas, c'est tout au long de l'histoire, y compris le cinéma, hein. Vous avez cité les peintres, mais il y a également
le cinéma.
Là, il y a The Song of Songs avec Marlène Dietrich, un film qui s'appelle comme ça, The Song of Songs, donc le Cantique des Cantiques en anglais, où ça chante une paysanne qui aime le Cantique des Cantiques, c'est très romantique. Et puis malheureusement elle va être trahie, ou alors aussi Thérèse d'Alain Cavalier qui a eu le Grand Prix du Festival de Cannes, ou le Cantique des Cantiques, alors c'est l'histoire de Thérèse de Lisieux, le Cantique des Cantiques sert comme arrière-fond, pas musical parce que justement c'est pas musical, on entend une voix off qui chante le Cantique des Cantiques, qui récite le Cantique des Cantiques, donc voilà, le Cantique des Cantiques continue, hein, d'être dans la culture même quand on le sait pas, hein, même quand on savait pas que ça vient du Cantique des Cantiques.
Est-ce que ça a déjà inspiré Bollywood? Vous savez, le cinéma.
Alors, Bollywood, bonne question.
Très porté, justement.
Absolument. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, parce que je ne suis pas tout à fait spécialiste du Bollywood, mais ça pourrait parfaitement. Parce qu'un certain nombre d'images du Cantique des Cantiques pourraient, effectivement, dans leur idéalisation, correspondre à ce genre de. Mais il ne faudrait peut-être pas réduire le Cantique des Cantiques à cela.
On va le voir.
Thank you. chercher celui que mon cœur aime. Dans mon jardin aride, il a fait son domaine. De perles de rosée, il a couvert ma tête. Mon âme est toute belle, mon bien-aimé m'appelle. J'attends son bon plaisir, il me dira d'ouvrir. Chante la tourterelle, mon bien-aimé m'appelle. Viens, ma toute belle.
Voilà, ce matin, nous parlons donc du Cantique des Cantiques avec le frère Jean-Emmanuel de Hena, directeur de l'Institut Jean de la Croix et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse et à l'IERP à Toulouse. Un des grands spécialistes du sujet, donc on a beaucoup de chance. Alors, vous avez essayé de nous expliquer quelle était à peu près l'origine de ce texte, même si on a bien compris que c'était compliqué, sa place dans les Écritures, le fait que c'était source d'inspiration artistique, y compris très récemment, puisque voilà, on parlait d'un spectacle de septembre dernier, donc à la Maison de la Danse à Lyon, et puis évidemment de la chanson assez connu d'Alain Bachung, voilà, qui est mort en 2009. Maintenant, dans cette deuxième partie, je voulais parler avec vous peut-être de la polémique, ou en tout cas du conflit d'interprétation qu'il y avait. Alors, je crois que c'est le sujet de votre thèse, alors on est tombé sur la bonne personne. En tout cas, moi, question simple, c'est vrai qu'on entend souvent dire que ça serait donc l'image d'abord de l'union de l'homme à Dieu, ou alors l'union de l'homme et de la femme. Alors, on va commencer peut-être l'image de l'union de l'homme à Dieu. Est-ce que d'abord, il faut y voir dans ce texte la métaphore en fait de l'âme qui cherche Dieu et qui cherche en fait ce délice parfait ou ce délice éternel, en tout cas pour les croyants, d'être unis à son Seigneur.
Alors évidemment, c'est ce qu'on dit et interprété les mystiques. En particulier, Saint Jean de la Croix, je suis carme, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler, qui a écrit un magnifique poème d'amour qui s'appelle le Cantique spirituel, où il interprète évidemment tout le Cantique des Cantiques comme l'amour passionné de l'âme, de la personne, vis-à-vis de son Dieu. Un amour complètement fou où on se donne entièrement à Dieu. Donc tous les mystiques, évidemment, ont interprété le Cantique des Cantiques comme ça. Dans la mystique juive, on a aussi cette réalité-là. Hein. Le Cantique des Cantiques apparaît comme une clé de lecture de l'ensemble de l'histoire entre l'homme et Dieu, entre Israël et Dieu, hein, et aussi la quête personnelle, la recherche personnelle, où on apprend à se connaître, enfin une sorte de poème initiatique à travers l'amour. Donc, de fait, ça a été interprété, et ça continue d'être interprété, mais pendant des siècles, c'était la seule interprétation, c'est-à-dire pendant 1500 ans,
c'est-à-dire
même,
pendant
même
des
un
siècles,
peu plus.
Jusqu'à quand ?
Oh, jusqu'à l'époque moderne, si vous voulez, jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on a commencé à se poser des questions sur la Bible un petit peu différemment, c'est-à-dire pas comme un texte religieux, mais aussi comme un texte tout court, dans lequel on se pose la question, qu'est-ce que ça signifie, ces mots-là, qu'est-ce que ça signifie, ces métaphores. Donc on a commencé à remettre en cause un peu la lecture de tradition traditionnelle, c'est-à-dire celle qui était en cours. Donc là, voilà.
Qu'est-ce qui a fait à un moment qu'on s'est permis, qu'on s'est autorisé justement à remettre en cause cette lecture ?
Je pense que c'est le développement de la science, en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsqu'on a détaché le texte de son contexte religieux, si vous voulez. C'est-à-dire quand un texte, on commence à le sortir de son contexte de tradition, il va avoir un autre sens, il va pouvoir prendre un autre sens, il va pouvoir être lu autrement, par exemple comme de la poésie amoureuse. Donc, plus dans un contexte spirituel, dans un contexte religieux. Donc du coup, on se pose la question. Il ne faut pas oublier non plus que pendant des siècles, d'abord, il y avait peu de gens qui étaient cultivés, qui savaient lire, qui savaient écrire, et en plus, les juifs le lisaient en hébreu, et dans l'église latine, on le lisait en latin. Donc ce texte était compris en latin. Donc ceux qui ne savaient pas le latin, ils savaient même pas l'existence du Cantique des Cantiques, par certains côtés. Même si, à travers la liturgie, il y avait un certain nombre de choses, puisque ça a été appliqué à la Vierge Marie. Et donc, un certain nombre d'antiennes, mais même là, elles sont en latin, sont inspirées du Cantique des Cantiques. De fait, il y avait de la musique populaire, de la poésie amoureuse populaire qui était inspirée, sans le savoir, du Cantique des Cantiques. Donc, ça faisait partie de la culture, mais pendant longtemps, c'était une évidence. Hein. Et puis, quand il a fallu imprimer une Bible, la Bible de Gutenberg, mais après il y en a eu d'autres, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres textes, laquelle il faut imprimer, et donc on a commencé à se poser des questions, mais qu'est-ce que ça signifie ce texte, quel est le sens de ce texte, est-ce que ça serait pas le mariage de Salomon, enfin etc., etc. Donc plus un sens mystique, si vous voulez, un sens spirituel, mais un sens humain, hein, de l'amour entre un homme et une femme, est-ce que ça serait pas ça? Et puis, bien sûr, au fur et à mesure des années, ça s'est encore compliqué parce qu'on a découvert de la poésie amoureuse en Égypte. On a découvert qu'il y avait aussi des poèmes d'amour entre les dieux et les déesses en Babylone. Donc, on a fait un certain nombre de découvertes archéologiques et on s'est rendu compte que certaines images ressemblaient à ce qu'on avait dans le Cantique des Cantiques. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce que ça serait quand même pas un petit peu la même chose? Est-ce qu'on retrouverait pas des choses très sensibles? Pour prendre un exemple très simple, dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée est appelée ma sœur. Bon, ma sœur, nous, ça fait bizarre. En général, on n'appelle pas sa fiancée ma sœur. En tout cas, pas chez nous, en Occident. Eh ben, si, ça existait dans la poésie amoureuse égyptienne. Et donc, c'est pas si surprenant que ça. Ça nous surprend, nous, mais ça n'était pas forcément surprenant à l'époque. Et c'est ce qui a fait qu'on a un petit peu bousculé la manière de lire le Cantique des Cantiques.
Alors, peut-être sur cette première interprétation, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, justement, de cette métaphore de l'âme qui cherche l'union à Dieu, qui est, si je me trompe pas, dans le chapitre 8, enfin tout à la fin.
Alors, en fait, c'est tout le problème de l'interprétation. Vous voyez, à la fin du Cantique des Cantiques, presque à la fin, il y a quelques petits versets qui sont lus d'ailleurs souvent au mariage, dans les mariages. Vous l'avez peut-être entendu parce que c'est très célèbre, on l'entend parfois dans la culture. Voici ce que dit le texte. « Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le Shéol, ses traits sont des traits de feu, une flamme de Yahvé ou de Yah, Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger, qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, ne recueillerait que mépris. Bon, c'est magnifique, hein, c'est la force invincible de l'amour, qu'on peut pas acheter, enfin vous voyez des grands thèmes de toujours, l'amour ça se paye pas, on a beau payer, ben non, et puis c'est fort comme la mort, c'est-à-dire il n'y a rien de plus fort que l'amour. Et puis il y a ce petit verset, ces traits sont des traits de feu, hein, le feu, l'amour qui est le feu, en plus en hébreu ça marche très bien parce que c'est Esh, et que le titre de ce cantique c'est Shirashirim, donc il y a le Shin qui est une lettre magnifique qui a une forme de feu justement, donc la calligraphie, là j'ai amené même un texte calligraphique, tout de suite ça sent le feu, mais la question est de savoir d'où vient ce feu, et donc ici on nous dit c'est des flammes de Yah. De Yah. Alors Yah c'est le mot divin, c'est le nom divin, alors est-ce qu'ici on aurait la clé d'interprétation de l'ensemble du Cantique des Cantiques, puisque c'est arrivé à la fin, au dernier chapitre. Donc, beaucoup l'ont pensé, et le pensent encore. L'idée que l'amour, l'origine de l'amour, la source de l'amour, c'est Dieu, et que Dieu est un feu. Un feu qui brûle, et donc quand un homme et une femme s'aiment, eh bien en fait, ils puisent à cet amour inépuisable qui est en Dieu. Donc ça, toute une partie de l'interprétation du Cantique des Cantiques repose sur cette quête d'amour, sur cet amour fou, divin. Évidemment, d'autres ont dit « flamme de Yah », ça signifie simplement une flamme divine. C'est-à-dire comme, vous savez, comme même encore dans le langage d'aujourd'hui, on dit « mon Dieu hein, !» voilà, hein, ma princesse !» Enfin, vous voyez le côté un petit peu transcendant de l'amour qui fait qu'on va utiliser même un langage sacré pour parler de l'amour, tellement c'est beau, tellement c'est extraordinaire. Hein, qu'on le divinise, l'amour c'est divin, hein, c'est trop divin. Bon, y a un peu tout ce genre d'expression. Donc est-ce que c'est ça hein, est-ce que c'est ce sens-là ou est-ce que c'est un sens carrément, ben c'est le Dieu révélé qui se révèle à l'homme.
Alors l'autre chose, si c'est pareil, si j'ai bien compris, c'est que ça pourrait être aussi une métaphore en fait de la relation d'Israël à Dieu. C'est-à-dire que dans le camp, alors évidemment on n'a pas le temps de le lire, mais donc il y a cette bien-aimée qui a son bien-aimé. Alors c'est tour à tour un roi ou un berger, on ne sait pas trop. Et à la fois ils se trouvent, à la fois ils se cherchent, à la fois ils s'unissent, à la fois elle désespère de ne pas le trouver. Comme tous ces allers-retours en fait d'Israël avec son Dieu qui le cherche mais qui en même temps le trahit. Puis les prophètes reviennent pour l'aider à se tourner vers Dieu, etc., etc. Est-ce que cette métaphore là pour le coup fait l'unanimité ou pas?
Alors ce qui est sûr, c'est que ailleurs dans la Bible, en particulier chez les prophètes, il y a la métaphore nuptiale, ce qu'on appelle la métaphore nuptiale, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de la relation entre Dieu et Israël comme une histoire d'amour qui se passe plus ou moins bien, hein, plus ou moins bien, puisque on parle d'infidélité, on parle de prostitution, hein, d'ailleurs parfois on donne des termes beaucoup plus crus que celui du Cantique des Cantiques. Je vous renvoie en particulier au livre du prophète Ézéchiel, c'est assez violent au chapitre 16 et au chapitre 24 où l'histoire est tumultueuse. Donc ici on pourrait dire il se cherche, il se trouve. Oui, avec la grande différence que dans les prophètes, c'est plutôt négatif, c'est plutôt extrêmement négatif. Alors qu'ici, à la fin, ça finit toujours bien. Hein, y a toujours les retrouvailles. Et c'est beaucoup plus optimiste. Le Cantique des Cantiques a un climat beaucoup plus optimiste. Mais c'est vrai que si le Cantique des Cantiques est un texte biblique et qu'il y a des métaphores nuptiales ailleurs, Israël va avoir tendance à dire, eh ben vous voyez bien, ici c'est aussi la même chose que chez les prophètes. C'est bien, donc la bien-aimée est identifiée à Israël, au peuple d'Israël, au peuple élu, et puis le bien-aimé est identifié à Dieu qui aime son élu, qui aime son peuple. D'ailleurs, il y a des formules très fortes, hein, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, qui rappelle ici dans le Cantique des Cantiques, je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, possession mutuelle. Et donc, effectivement, l'une des interprétations, bien sûr, chez les Juifs, a été celle-là, d'identifier cette métaphore nuptiale, et qui continue aujourd'hui. Évidemment, l'Église catholique a poursuivi ça, en disant, ben voilà, c'est l'Église qui est avec le Christ. Alors plutôt que Yahvé, évidemment, c'est le Christ. Bon, et puis les mystiques, on vous dit, ben c'est l'âme, c'est chacun d'entre nous qui est appelé à l'union d'amour, l'union d'amour transformante, l'union mystique, ce qu'on appelle l'union mystique, le mariage spirituel, chaque âme est appelée à ça.
Alors, peut-être pour finir, avant de faire une deuxième pause, vous dites donc à la différence des prophètes, où souvent c'est de manière négative, c'est-à-dire qu'en fait, un homme se lève, appelé par Dieu pour redésigner l'objectif, en fait, quelque part, hein, redire la finalité de notre vie et puis d'Israël, c'est-à-dire d'être le peuple qui est témoin de l'existence de Dieu et de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Là, en effet, donc il y a de nombreux passages où il y a la description d'une union charnelle, presque, hein, pas dans le détail, mais enfin de manière poétique, et donc où il y a en effet un accomplissement. Alors, est-ce que ce livre aussi dit quelque chose du ciel, justement, et est-ce que au ciel, on peut imaginer qu'il y aura aussi, même si évidemment ça sera avec des corps glorieux, puisque c'est ce qu'on croit dans la foi, mais est-ce que l'héros, en fait, quelque part, ne sera pas absent du ciel, et si oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ce que je peux dire, c'est que le Cantique des Cantiques, c'est le paradis. Ça se présente comme le paradis.
Mais le paradis passé ou le paradis à venir?
Justement, toute la question, elle est là. Est-ce que c'est le paradis perdu? Ou est-ce que c'est le paradis retrouvé? Ou est-ce que c'est le paradis à venir? À mon avis, c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que le Cantique des Cantiques est génial, parce que ça peut être lu à plusieurs niveaux et que toute personne peut s'y retrouver, y compris non-croyante. En lisant ce poème, il peut être que transporté, tellement c'est extraordinaire, tellement c'est beau. C'est paradisiaque, on se retrouve dans le paradis. Alors chacun met dans le mot paradis ce qui lui correspond, mais il y a vraiment un jardin magnifique, superbe, dans lequel il y a des fruits, il y a des parfums, tout est beau. Et c'est vrai que c'est ça, le Cantique des Cantiques. On chante ce paradis. Et en même temps, ben justement, est-ce que ce paradis existe? Est-ce que c'est pas justement trop idéalisé? C'est ce que diront les chagrins, hein, les esprits chagrins. Oui, c'est bien gentil, ce Cantique des Cantiques, mais enfin, quand on voit ce qu'on voit, et puis la vie conjugale, c'est difficile.
Ne vous inquiétez pas, on en parlera après, oui.
Tout à fait. Bon, ben voilà, donc on va dire, c'est trop idéalisé. Bon, ce qu'on reproche toujours aux romantiques. Il y a un côté romantique, si l'on veut, mais un romantique qui est dans la Bible.
Mais ma question, c'était davantage sur l'héros, c'est-à-dire l'amour érotique. Est-ce qu'il y a de l'amour érotique en Dieu? Et est-ce que quelque part, on peut imaginer qu'il y en aura au ciel?
Alors, si par érotique, on entend désir, un désir fort, un désir violent, oui. Et c'est pour moi qu'il dit, c'est le pape Benoît XVI qu'on peut franchement pas accuser d'exagérer. Hein. Et donc dans son encyclique Deus Caritas Est, Dieu est charité, il dit que Dieu nous aime d'une manière érotique. Alors bien sûr, il faut bien comprendre ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a du désir, qu'il veut nous aimer et qu'il nous aime avec une force, hein, avec
un désir violent.
Un désir violent. Hein. Et donc, en ce sens-là, oui, le Cantique des Cantiques est rempli de ce désir violent, extrêmement fort, hein, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Ça commence comme ça. Enfin, c'est vraiment ex abrupto. Enfin, il n'y a pas d'introduction, on nous dit pas qui parle à qui, ni comment. C'est immédiatement le désir, et le désir fort, pas un petit désir. C'est pas j'aimerais bien te rencontrer. C'est vraiment je veux t'embrasser des baisers de la bouche. Hein. Donc, ça va extrêmement fort. Et bien d'autres passages de ce Cantique des Cantiques sont tout aussi forts, hein, dans leurs suggestions, dans leurs désirs, précisément.
J'entends l'amour qui coule dans votre voix, mais je viens de loin, d'une autre rive. Les jours, je marche à petits pas, seul au monde, je vous espère. Et demain, près de la fontaine, vous me tendrez les bras, votre terre sera la mienne. Enfant de la terre, regarde ta mère, elle respire contre toi. C'est avec elle que la nuit j'attends. Un grand feu sans visage sur tes rêves d'enfant. J'entends l'amour qui coule dans votre voix, mais je viens. Une autre rive marche à petits pas, seul au monde, je vous espère. Et demain, près de la fontaine, vous me tendrez les bras, votre terre sera la mienne. Ton père te porte, mon ange te porte déjà, tous les deux je vous vois. C'est avec lui que la nuit j'attends. Un chemin, le printemps et ton rire d'enfant. J'entends l'amour qui coule dans votre voix, mais je viens de loin, d'une autre rive passent les jours. Je marche à petits pas, seul au monde, je vous espère. Et demain, près de la fontaine, vous me tendrez les bras, votre histoire sera la mienne. Se dévoile comme un nouveau monde, nous serons ta source, toi tu es notre étoile. C'est avec toi que nos vies se tissent, quel que soit le soleil qui aura baigné ton premier regard, tes premiers instants. Votre voix, mais je viens de loin, d'une autre rive passent les jours. Je marche à petits pas, seul au monde, je vous espère. Et demain, près de la fontaine, je me jetterai dans vos bras. Alors ce jour-là, comme la première fois, le ciel en sera témoin.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que ce matin nous parlons donc du Cantique des Cantiques, donc ce livre dans la Bible qui est à peu près au milieu, voilà, avec le frère Jean-Emmanuel Dehena, directeur de l'Institut Jean de la Croix et enseignant autant à l'Institut catholique de Toulouse qu'à l'Institut d'études religieuses et pastorales IERP. Alors on a beaucoup de chance de commencer la semaine avec ce magnifique texte. Peut-être une autre, enfin vous nous avez expliqué donc, frère Jean-Emmanuel Dehena, après avoir expliqué à peu près l'origine, sa place dans les Écritures, le fait que ces textes a été source de nombreuses inspirations artistiques, y compris par des gens qui n'ont pas la foi. Voilà, l'interprétation, on va dire, dominante pendant des siècles, qui a été donc la métaphore de l'âme qui cherche Dieu, qui cherche soit ce paradis perdu, soit ce paradis à venir, c'est-à-dire ce désir enfin, comment dire, plein, enfin débordant, et pas souffrant ou assoiffé. Mais, vous l'avez dit en filigrane, ça dit aussi quelque chose, évidemment, de l'union de l'homme et de la femme, puisque de toute façon, c'est ce que ça décrit. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, l'Église est tranquille avec ça, et que ce texte dit les deux, parce que les deux parlent de Dieu, et que nous qui croyons que Dieu s'est fait homme en Jésus, et ben les deux sont évidemment intimement liés.
Alors, c'est toute la difficulté de l'interprétation, évidemment, du Cantique des Cantiques. Comment le situer ? Est-ce qu'on le situe qu'à un certain niveau ? Est-ce qu'on garde les deux niveaux ? En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que les deux sont là, et que donc, au-delà de ce qu'a dit l'auteur, ce qu'a voulu dire l'auteur, ce que nous on peut en dire et comment on peut le lire, d'ailleurs conformément à la tradition de l'Église, mais pas que de l'Église, des générations et des générations, je pense que ce texte permet précisément de réhabiliter, je ne sais pas s'il faut le réhabiliter, mais l'amour, l'éros en Dieu, avec Dieu. Donc, ce qui est très intéressant aussi dans le Cantique des Cantiques, avec les corps, et pas simplement avec l'esprit, quoi. Enfin, pas simplement, autrement dit, pas un amour platonique dans les idées, mais bien un amour qui fait appel aux sens, aux cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Hein, et je crois que ce texte parle à cause de ça. Hein, il parle à l'autre réel que nous sommes, et pas simplement à l'être idéal. Hein. Mais en même temps, on voit bien que dans ce cantique, il y a des évolutions. Hein, il y a des évolutions dans l'amour. Alors, je voulais vous citer un refrain qui revient à trois reprises dans le Cantique des Cantiques, mais qui se ressemble, et pourtant il y a une évolution. Alors, par exemple, au chapitre 2, verset 16, on entend la chose suivante. « Mon bien-aimé ou mon amoureux est à moi, et moi, je suis à lui. » Donc, c'est la bien-aimée qui parle et qui dit « Mon bien-aimé est à moi, et moi, à lui. » Donc, la possession mutuelle. Ça, c'est au chapitre 2. Et puis, un tout petit peu plus loin, au chapitre 6, verset 3, on a l'impression d'entendre la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. « Je suis à mon amoureux, et mon amoureux est à moi. » Tiens, tiens, tiens. Autrement dit, ça commence pas par « Mon amoureux est à moi, mais je suis à mon amoureux. » Inversion des rôles. Comme si on était passé d'un amour captatif, fusionnel, où c'est moi qui prends, à un amour où c'est moi qui me donne, et du coup, parce que je me donne, hein, mon bien-aimé, mon amoureux est à moi. Et puis, comme l'évolution s'arrête pas là, un tout petit peu plus loin, au chapitre 7, verset 11, on reprend la même expression « Je suis à mon bien-aimé », comme le verset que je viens de citer, 6-3. Et puis, il y a une petite chose de plus qui est magnifique, et c'est pour ça que c'est l'éros, « Et vers moi se porte son désir ». Et son désir, ici, le mot est très fort en hébreu, puisque c'est vraiment le désir fort. C'est ailleurs, quand on considère que c'est négatif, on va même dire la convoitise. Hein, la convoitise. Mais la convoitise, c'est tout de suite péjoratif. Donc ici, c'est vraiment le désir fort. Or, vers moi se porte son désir. Évidemment, tous ceux qui connaissent un peu la Bible se souviennent que dans la Genèse, l'un des châtiments, entre guillemets, après le péché originel, c'est qu'on disait à la femme, ton désir va te porter vers l'homme, et ça va te rendre esclave. Autrement dit, la femme est esclave de son désir vis-à-vis de l'homme. Et ici, le Cantique des Cantiques semble dire le contraire, comme si l'inversait la situation. Et donc, on revient avant le faute, avant la rupture entre Dieu, entre l'homme et la femme et Dieu, et puis aussi entre l'homme et la femme, dans le couple. Hein. Et donc, vers moi se porte son désir. Autrement dit, l'homme m'aime moi, me désire moi. J'inverse complètement le cours de l'histoire, finalement. Hein. Et c'est pour ça que c'est un retour au paradis. Et que c'est ça qui est quand même le but, c'est cette réconciliation entre l'homme et la femme, qui est en même temps une réconciliation avec Dieu. Parce que dans la Bible, c'est pas séparé l'un de l'autre.
Alors, en même temps, c'est, comment dire, plusieurs questions, évidemment. La première, c'est que on peut avoir l'impression, en effet, en lisant le texte, vous venez de le faire, qu'il y a une forme d'espèce d'évolution de cet amour, ou de purification de cet amour. Alors, vous disiez que ça n'avait pas forcément d'incidence, mais il faut le citer. À un moment, il est dit il s'est pas dit comme tel, mais apparaissent le mot sœur et frère, si je me trompe pas.
Oui.
Donc du coup, on peut imaginer que après justement l'élan amoureux, ils se reconnaissent comme tels et que du coup ça fait grandir leur amour et qu'au final c'est un amour qui ressemble à un amour conjugal, c'est-à-dire on a l'impression qu'on part d'un désir fou et violent et puis qu'on arrive entre guillemets dans un don réciproque, mutuel, comme vous dites, relatif, enfin plus gratuit, et tout ça sous le regard de Dieu. Est-ce que c'est de fait l'évolution de ce texte, ou est-ce que de fait c'est pas vraiment un amour conjugal? Vous me disiez en préparant cette émission qu'on ne sait pas du tout si c'est un mari et une femme en fait qui parlent là.
Exactement. C'est-à-dire que moi je distinguerais les plans, je distinguerais le texte quand il a été écrit et l'interprétation qu'on peut donner à ce texte au cours des siècles. Donc je pense que le texte, quand il a été écrit, ne parle pas du mariage. Ne parle pas du mariage, sauf à un seul endroit, au chapitre 3, on parle du mariage de Salomon. Hein. C'est au chapitre 3, verset 11. « Venez contempler, fille de Sion, le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l'a couronné, au jour de ses épousailles, au jour de la joie de son cœur. » Là, il est question du mariage. Mais c'est même pas le mariage entre la bien-aimée et le bien-aimé du Cantique des Cantiques, c'est le mariage de Salomon. Et on sait que le roi Salomon, hein, il avait beaucoup d'épouses. Hein, donc, mais si ça parlait du mariage, il faudrait que ça parle des enfants. Or, nulle part dans le Cantique des Cantiques, on parle des enfants. On ne parle pas non plus de la famille. Dans l'institution de l'époque, ce sont les parents qui décident des épousailles, du mariage. Rien de tout ça. On parle au contraire de l'amour. L'amour au sens libre, au sens strict du terme, ce n'est pas l'institution du mariage qui est en jeu. C'est plutôt effectivement l'amour d'un homme et d'une femme. Les sentiments qui unissent un homme et une femme avec la souffrance de la séparation, avec la quête amoureuse et puis enfin avec l'union de l'homme et de la femme qui se retrouvent l'un avec l'autre. Donc, ce n'est pas vraiment le mariage qui est visé, je crois. En tout cas, pas au niveau du texte. Qu'après, on puisse l'appliquer au mariage, oui, je le crois. C'est d'ailleurs ce que l'on fait. Beaucoup de mariés qui se marient à l'église choisissent un petit extrait du Cantique des Cantiques qui leur est proposé dans les lectures en pensant, ben voilà, c'est tellement beau, c'est une poésie d'amour. Surtout en général, quand on se marie, on est encore peut-être avec un peu les étoiles dans les yeux. Hein, et donc, c'est beau, et le Cantique des Cantiques, c'est beau. Et donc, les fiancés, souvent, s'y retrouvent, quoi, hein, se sentent reconnus.
Alors justement, c'est un peu ce qui vient en lisant ce texte, on se dit c'est beau, mais c'est très idéaliste, c'est-à-dire que c'est très romantique, très érotique, très idéaliste, et alors peut-être que c'est pas le cas pour tous les couples, mais les couples pourraient, en lisant ce texte, se dire, bon bah ça a été écrit par par un adolescent ou par une jeune fille très romantique, mais la vie conjugale ne ressemble pas qu'à ça. D'abord, toutes les femmes ne sont pas d'une beauté, semble-t-il, aussi confondante que cette jeune fille qui est décrite. Et ensuite, comment dire, que les unions ou la vie conjugale est parfois aussi le lieu, comment dire, d'un dépassement, d'une mort à soi-même, et non pas d'une idéalisation, mais d'un approfondissement de l'amour. Alors, est-ce que justement c'est un beau texte? J'ajoute à ça que peut-être ça, on peut reprocher parfois à l'Église de parler de l'amour de manière idéalisée. Alors, est-ce que ce texte n'y contribue pas d'une certaine manière?
Alors, j'ai envie de vous renvoyer une petite boutade. Vous avez dit la femme aussi belle. Attendez, il y a aussi l'amoureux, hein, qui est magnifique, hein, qui est superbe, qui est tout aussi idéalisé que la femme. Donc, c'est pas que d'un côté, hein, c'est des deux côtés. Le bien-aimé, hein, qui est extraordinaire. Tous les bien-aimés, tous les hommes ne sont pas non plus aussi beaux que ne le racontent.
Ça va toi.
Voilà, mais il faut le dire, puisque dans le Cantique, il y a les deux. Hein, il y a l'homme et il y a la femme. Hein, et donc, dans les deux cas, il y a cette forme d'idéalisation. J'ai quand même envie de dire que l'adolescent, il fait quand même partie aussi de la vie. Hein.
L'adolescence, vous voulez dire?
L'adolescence, oui. Et que l'idéalisation fait aussi partie de la vie. Heureusement qu'un jour, on est tombé amoureux quand même. Enfin, en tout cas, moi, je suis tombé amoureux de Dieu, et heureusement que j'ai idéalisé un petit peu mon amour avec Dieu, et que c'était un peu romantique, parce que sinon, on ferait jamais rien.
Mais c'est-à-dire que ça n'aide qu'au démarrage, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus
profond?
Non,
mais je pense qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moment d'idéalisation, jamais on ne s'engagera. Si on commence déjà par les problèmes, jamais on aura envie de se donner. Donc je crois qu'il faut d'abord découvrir ça, parce que c'est ça qui donne la force ensuite, effectivement, de traverser les épreuves. Donc je pense que le Cantique des Cantiques, il est là un petit peu comme le but à atteindre, comme effectivement un idéal, mais pas au sens péjoratif, au sens très positif. Il faut des idéaux dans la vie.
Vous me disiez en préparant cette émission que non seulement ça sert entre guillemets de starter, enfin c'est le mot est très mal choisi, hein, mais ça décrit la première flamme, mais qu'aussi justement l'amour humain, bien que imparfait, y compris justement dans sa chair, hein, ou dans la vie conjugale, c'est aussi parce qu'on a ou continue d'avoir un idéal au cœur qu'en fait cet amour continue à avancer, à se construire, continue à chercher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que nous sommes faits pour l'amour. Nous avons été créés par amour, pour l'amour.
C'est-à-dire pour l'amour, et pour l'amour parfait.
Tout l'amour parfait, l'amour éternel, l'amour qui dure tout le temps, c'est-à-dire qui dépasse la mort, qui est capable de traverser la mort. Comment ne pas être fasciné par des couples âgés, qui ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, et il y a des gestes amoureux, vraiment un regard amoureux. Alors évidemment, peut-être pas celui des adolescents, mais bien réel, bien profond, et c'est extrêmement touchant. Mais en fait, au-delà justement de d'une vie conjugale remplie, féconde, hein, et qui arrive à une plénitude, c'est parce qu'on est appelé à une autre plénitude, qui est un amour qui, lui, ne connaîtra pas de fin. Et ça, c'est ce que explique très bien Jésus. Hein. Il n'en était pas comme ça aux origines, il n'y avait pas de divorce. Dieu veut que nous nous donnions totalement les uns aux autres, hommes et femmes, pour ne faire qu'un, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et évidemment, nous savons tous très bien que nous n'y arrivons pas, bien des fois, et c'est bien pour ça que nous avons besoin que Dieu lui-même vienne nous redonner le goût de la vie, nous redonner le goût de l'amour. Et Dieu sait si aujourd'hui on en a bien besoin.
Alors, peut-être, bon, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Moi, j'avais une question peut-être un peu osée, c'est que on se dit, donc ça parle de l'amour conjugal, est-ce que ça peut concerner les religieux? Et si oui, comment? Et comment un religieux peut intégrer, en fait, cette dimension charnelle dans son amour pour Dieu?
Alors, je pense que, bien sûr que ça nous concerne, heureusement, sinon j'aurais pas passé toute ma vie à travailler le Cantique des Cantiques et que je pense continuer de travailler, parce que je pense que nous pouvons, que toute personne est appelée à tomber amoureuse, hein, d'une manière ou d'une autre, donc à sortir de soi pour se donner à quelqu'un d'autre. Alors, je pense que nous, religieux, religieuses, c'est Dieu, évidemment, mais c'est pas que Dieu, c'est aussi les autres, hein, c'est aussi se donner à un peuple, c'est aussi donner sa vie par amour pour les autres, hein, en priant pour eux, en les écoutant, en passant du temps, en montrant qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Voilà, c'est tout ça, ça participe de cette réalité. Mais j'irai encore au-delà, je pense que le Cantique des Cantiques, c'est l'essence aussi. Et donc, la beauté d'une liturgie, la beauté d'un chant, la beauté justement de cette parole, nourrit ma vie affective également, hein, la purifie, lui donne sens, il y a le sens de la beauté, il faut avoir le sens de la beauté, et bien sûr, évidemment, la beauté intérieure étant la plus profonde, la plus difficile aussi à atteindre, mais la plus belle, celle qui fait que si je suis beau, si je suis harmonieux, bah, d'autres personnes auront envie aussi de dire, mais d'où te vient cette beauté, comment tu peux être heureux quand on entend les informations de ce matin, comment tu peux encore croire à ces choses-là? Est-ce que c'est pas utopique? Est-ce que t'es pas sur un petit nuage? Ben non, je suis pas sur un petit nuage. C'est que le paradis existe et qu'il est en moi, qu'il est en vous, mais que vous l'ignorez. Vous l'avez perdu peut-être, certainement. Nous l'avons tous perdu, mais il nous est ouvert, il nous est réouvert par l'amour de Dieu qui souhaiterait rentrer en contact avec nous. Et le Cantique des Cantiques, eh ben, il est là pour nous réveiller. Hein. N'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Fille de Jérusalem, dit trois fois le Cantique des Cantiques. Ben, c'est un petit peu ça. Attention! Attention, l'amour est là. Est-ce que vous voulez bien l'écouter, mais juste à son heure, à son temps, si vous êtes prêt.
J'allais dire amen, vous voyez. Merci beaucoup, frère Emmanuel de Héna, Jean-Emmanuel de Héna, d'être venu nous parler du Cantique des Cantiques. Cette émission donc était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain où nous parlerons de la fête des peuples.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.